physiologie du goût, variété 13. Toute française, à ce que j'imagine, sait, bien ou mal, faire un peu de cuisine. Bellarsène, acte 3. Industrie gastronomique des émigrés. J'ai exposé dans un chapitre précédent les avantages immenses que la France a tirés de la gourmandise dans les circonstances de 1815. Cette propension si générale n'a pas été moins utile aux émigrés, et ceux d'entre eux qui avaient quelques talents pour l'art alimentaire en ont tiré de précieux secours. En passant à Boston, j'appris au restaurateur Julien Florisset en 1794, c'était un habile garçon qui avait, disait-il, été cuisinier de l'archevêque de Bordeaux. Il a dû faire une grande fortune si Dieu lui a prêté vie. Donc j'appris au restaurateur Julien à faire des œufs brouillés au fromage. Ce mets, nouveau pour les Américains, fit tellement fureur qu'il se crut obligé de me remercier en m'envoyant à New York le derrière d'un de ces jolis petits chevreuils qu'on tire en hiver du Canada et qui fut trouvé exquis par le comité choisi que je convoquais en cette occasion. Le capitaine Collet gagna aussi beaucoup d'argent à New York en 1794 et 1795 en faisant pour les habitants de cette ville commerçante des glaces et des sorbets. Les femmes surtout ne se lassaient pas d'un plaisir si nouveau pour elles. Rien n'était plus amusant que de voir les petites mines qu'elles faisaient en y goûtant. Elles avaient surtout peine à concevoir comment cela pouvait se maintenir si froid par une chaleur de 26 degrés de Réaumur. En passant à Cologne, j'avais rencontré un gentilhomme breton qui se trouvait très bien de s'être fait traiteur. Et je pourrais multiplier indéfiniment les exemples, mais j'aime mieux compter, comme plus singulière, l'histoire d'un Français qui s'enrichit à Londres par son habileté à faire de la salade. Il était limousin. Et si ma mémoire est fidèle, il s'appelait d'Aubignac ou d'Albignac. Quoique sa pitance fût fortement restreinte par le mauvais état de ses finances, il n'en était pas moins un jour à dîner dans une des plus fameuses tavernes de Londres. Il était de ceux qui ont pour système qu'on peut bien dîner avec un seul plat, pourvu qu'il soit excellent. Pendant qu'il achevait un succulent roast beef, 5 à 6 jeunes gens des premières familles, dandies, se régalaient à une table voisine. Et l'un d'eux, s'étant levé, s'approcha et lui dit d'un ton poli : « Monsieur le Français, on dit que votre nation excelle dans l'art de faire la salade. Voudriez-vous nous favoriser et en accommoder une pour nous ?» Traduction mot à mot du compliment anglais qui doit être fait dans cette occasion. D'Albignac y consentit après quelques hésitations, demanda tout ce qu'il crut nécessaire pour faire le chef-d'œuvre attendu, y mit tous ses soins et eut le bonheur de réussir. Pendant qu'il étudiait ses doses, il répondait avec franchise aux questions qu'on lui faisait sur sa situation actuelle. Il dit qu'il était émigré et avoua, non sans rougir un peu, qu'il recevait des secours du gouvernement anglais, circonstance qui autorisa sans doute un des jeunes gens à lui glisser dans la main un billet de 5 livres sterling, qu'il accepta après une molle résistance. Il avait donné son adresse, et à quelque temps de là, il ne fut que médiocrement surpris de recevoir une lettre par laquelle on le priait, dans les termes les plus honnêtes, de venir accommoder une salade dans un des plus beaux hôtels de Grosvenor Square. D'Albignac, commençant à prévoir quelque avantage durable, ne balança pas un instant, et arriva ponctuellement, après s'être muni de quelques assaisonnements nouveaux qu'il jugea convenables pour donner à son ouvrage un plus haut degré de perfection. Il avait eu le temps de songer à la besogne qu'il avait à faire. Il eut donc le bonheur de réussir encore et reçut pour cette fois une gratification telle qu'il n'eût pas pu la refuser sans se nuire. Les premiers jeunes gens pour qui il avait opéré avaient, comme on peut le présumer, vanté jusqu'à l'exagération le mérite de la salade qu'il avait assaisonnée pour eux. La seconde compagnie fit encore plus de bruit, de sorte que la réputation de d'Albignac s'étendit promptement. On le désigna sous la qualification de « fashionable salad maker ». Et dans ce pays avide de nouveautés, tout ce qu'il y avait de plus élégant dans la capitale des trois royaumes se mourait pour une salade de la façon du gentleman français. « I die for it », c'est l'expression consacrée. Désir de nonne est un feu qui dévore, désir d'anglaise est 100 fois pire encore. D'Albignac profita en homme d'esprit de l'engouement dont il était l'objet. Bientôt, il eut un carrick pour se transporter plus vite dans les divers endroits où il était appelé, et un domestique portant, dans un nécessaire d'acajou, tous les ingrédients dont il avait enrichi son répertoire, tels que des vinaigres à différents parfums, des huiles avec ou sans goût de fruits, du soy, du caviar, des truffes, des anchois, du ketchup, du jus de viande et même des jaunes d'œufs, qui sont le caractère distinctif de la mayonnaise. Plus tard, il fit fabriquer des nécessaires pareils, qu'il garnit complètement et qu'il vendit par centaines. Enfin, en suivant avec exactitude et sagesse sa ligne d'opération, il vint à bout de réaliser une fortune de plus de 80 000 francs, qu'il transporta en France quand les temps furent devenus meilleurs. Rentré dans sa patrie, il ne s'amusa point à briller sur le pavé de Paris, mais il s'occupa de son avenir. Il plaça 60 000 francs dans les fonds publics, qui, pour lors, étaient à 50%, et acheta pour 20 000 francs une petite gentilhommière située en Limousin, où probablement il vit encore, content et heureux, puisqu'il sait borner ses désirs. Ces détails me furent donnés dans le temps par un de mes amis qui avait connu d'Albignac à Londres, et qu'il l'avait tout nouvellement rencontré lors de son passage à Paris.